franceinter.fr.
Bonjour Stéphane Paoli, deuxième partie d'Agora, juste après cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Après le Japon, la Terre a de nouveau tremblé la nuit dernière. Cette fois, c'est en Équateur. 7,8 degrés, c'est extrêmement violent. La secousse a fait 77 morts et des centaines de blessés. Le président coréen a décrété l'état d'urgence. Il est attendu cet après-midi en Égypte. François Hollande termine son déplacement au Liban par la visite d'un camp de réfugiés syriens. D'ici 2 ans, 3000 d'entre eux seront accueillis en France. Le rassemblement avait été reporté après les attentats. Cet après-midi, Bruxelles va marcher contre la terreur et la haine. Au Brésil, c'est son avenir politique qui est en jeu. Les députés votent ce soir sur la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé les comptes publics. Au Brésil, la corruption touche toutes les strates politiques. Nous verrons cela avec notre invité Sébastien Velu, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Les sports avec le tennis, la Fed Cup France-Pays-Bas, un partout, il reste 2 simples et 1 double aux Françaises pour faire la différence. Et puis, mission impossible quasiment pour Gaël Monfils, battre Raphaël Nadal sur terre battue en finale de Monte-Carlo. Le temps, là, tout est possible. On va quitter la pluie pour un temps plus sec et un peu plus de soleil, mais le mercure restera décidément très paresseux. La Terre a donc tremblé la nuit dernière dans le nord de l'Équateur, un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter dans cette région qui borde la côte pacifique. Le bilan provisoire s'élève déjà à 77 morts et près de 6000 blessés. Les dégâts matériels sont importants dans la zone de l'épicentre, zone située dans la province de Manabí, et aussi dans des lieux un peu plus éloignés comme la ville de Guayaquil, le sud de Quito, San Miguel de los Bancos et Manta. L'état d'exception a été décrété dans tout le pays. L'Équateur, il y a 24 heures, c'était le Japon avec la nouvelle secousse enregistrée sur l'île de Kyushu. Là, au Japon, les recherches de rescapés sont freinées par le mauvais temps. Les pluies diluviennes qui s'abattent actuellement sur la région laissent craindre en effet de nouveaux glissements de terrain. Les 2 gros séismes nippons de cette semaine ont fait 41 morts. Alors le Japon hier, l'Équateur aujourd'hui, 2 tremblements de terre à quelques heures d'écart, mais pas forcément de lien sismique entre les 2 séismes, explique Jan Klinger, chercheur au CNRS et aussi à l'Institut de physique du globe de Paris.
Le cas du Japon de cette semaine, il est un peu particulier puisque effectivement, avant le séisme de magnitude 7.1, on a eu ce que l'on appelle en fait des précurseurs puisqu'ils sont apparus avant de fortes magnitudes, c'était des magnitudes autour de 6. Donc là, dans le cas de l'Équateur, on a l'air d'être dans une séquence plus classique avec un choc principal de magnitude 7.8. C'est tout à fait équivalent à ce qu'on a eu il y a à peu près 1 an au Népal. Et puis, on va avoir la cohorte des répliques qui va suivre là pendant des jours, des semaines, voire plusieurs mois. La zone de la subduction en Équateur, elle est assez active. En 1979, il y avait eu un séisme assez important. Il y a donc très souvent des séismes dans le nord de l'Équateur. C'est une zone qui est ce qu'on appelle bloquée. C'est-à-dire que les plaques bougent, mais sur la faille, elles sont complètement soudées et donc elles accumulent des forces qui se relâchent lors de grands séismes. Ça, c'est quelque chose qui est bien documenté et qui est d'ailleurs sujet d'étude pour de nombreux groupes français.
François Hollande achève sa visite au Liban par une visite d'un camp de réfugiés syriens dans la plaine de la Beka. Le chef de l'État y a rencontré des familles qui seront bientôt transférées en France, Isabelle Labéry.
C'est dans cette grande plaine de la Beka, cernée par les montagnes et toute proche de la frontière syrienne, que se concentre la majorité des réfugiés. Dans le camp visité par le chef de l'État, il y a 100 de familles qui vivent sous abri de tôles ou de tentes, beaucoup d'enfants. Très vulnérables, la plupart travaillent dans les champs dès l'âge de 10 ans. Le chef de l'État est venu dire sa solidarité. La France annonce 50 millions d'euros d'aide aux ONG pour l'année qui vient. Mais François Hollande est aussi venu avec un message politique. L'une des solutions, dit-il, c'est la transition politique en Syrie.
Ce que demandent ces familles, pour l'essentiel, ce n'est pas d'aller en Europe. C'est de pouvoir retourner le plus rapidement chez elles. Alors, quelle est la responsabilité, là encore, de la France ? C'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir une sortie de crise en Syrie et faire qu'il y ait autour de la même table toutes les parties prenantes pour qu'il y ait une solution politique en Syrie. Et quand il y aura la paix, car la paix elle est possible, alors ces familles retourneront de là où elles viennent, c'est-à-dire de Syrie, et pourront refaire leur vie.
Le régime et l'opposition doivent reprendre leurs pourparlers indirects sous l'égide de l'ONU à Genève. La France, en attendant, s'engage sur une mesure symbolique. 3000 réfugiés syriens vivant au Liban seront accueillis sur le sol français ces 2 prochaines années. Adil Maillet, Isabelle Labéry, France Inter.
François Hollande est attendu cet après-midi en Égypte, deuxième étape de son voyage au Moyen-Orient. Au moment même où se tiennent à Genève des négociations sur l'avenir de la Syrie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a proclamé ce dimanche que la partie annexée du plateau syrien du Golan resterait pour toujours dans les mains d'Israël. Il s'exprimait au début d'un conseil des ministres hebdomadaire, conseil organisé pour la première fois sur le plateau du Golan depuis sa conquête par Israël en 1967. 5 jours après les attentats de Bruxelles, les attentats du 22 mars, les Bruxellois avaient appelé, rappelez-vous, à une marche de résistance contre la terreur et la haine, marche reportée en raison des menaces et des consignes de sécurité. Et finalement, cette marche aura lieu cet après-midi. Plusieurs milliers de personnes sont attendues, Johanna Hochstein.
Quelques 15 000 personnes sont attendues cet après-midi à Bruxelles, des citoyens qui viendront témoigner leur soutien aux familles des victimes des attentats. Nous avons le droit de vivre, d'habiter et de travailler en sécurité, insistent les organisateurs de la marche. Et surtout, nous voulons continuer à vivre ensemble. C'est pour cela d'ailleurs que les représentants des différentes communautés religieuses ont été invités et qu'un cortège partira de Molenbeek. Tout le monde espère ici que cette marche se déroulera dans le calme. Pour rappel, 4 jours après les attentats de Bruxelles et alors qu'un premier rassemblement de citoyens avait été annulé pour des raisons de sécurité, des hooligans étaient venus semer le trouble, place de la Bourse, un événement qui avait particulièrement heurté la population endeuillée. Aujourd'hui, l'émotion est quelque peu retombée et la vie reprend peu à peu son cours dans la capitale belge. Mais les stigmates des explosions sont toujours visibles. Le métro ne fonctionne pas encore à plein régime. La station Malbec reste fermée. Quant à l'aéroport de Bruxelles, seule la moitié des vols est mise en œuvre pour le moment. Johanna Hochstein, France Inter, à Bruxelles.
Au Brésil, les 513 députés de l'Assemblée voteront ce soir sur la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée par l'opposition, non pas de corruption, mais d'avoir maquillé les comptes publics. Dilma Rousseff accuse, elle, de ses détracteurs, eh bien, de vouloir fomenter un coup d'État pour la pousser vers la sortie. Et des manifestations pro et anti-Rousseff sont prévues ce dimanche dans tout le pays. Et à quelques heures du vote, la tension monte chez les députés brésiliens, Bertrand Galichet.
Dans les couloirs de l'hémicycle, les déclarations s'enflamment à quelques heures du vote. Les députés favorables au départ de Dilma Rousseff et les partisans de la présidente prennent à témoin les journalistes. Hier après-midi, le député d'opposition, Paoderné Avelino, reprochait à la présidente de tout faire pour gagner des voix. Des terres appartenant au gouvernement fédéral auraient été cédées à l'État d'Amapá dans le nord du pays.
Elle aurait dû le faire il y a au moins 10 ans. Et maintenant, 24 heures avant le vote sur la destitution, la présidente signe le décret.
Des accusations de clientélisme qui portent aussi sur des nominations faites récemment par le pouvoir. Énervé par ces soupçons, le député Silvio Costa, du Parti travailliste du Brésil, défend la présidente bec et ongle. Le gouvernement n'est pas à l'arrêt. La présidente Dilma est toujours présidente. C'est quoi le problème de nommer quelqu'un? C'est interdit par la Constitution de nommer quelqu'un au journal officiel? Pendant ce temps, en coulisses, chaque camp tente de convaincre les députés indécis. Dilma Rousseff, appuyée par l'ancien président Lula, multiplie jusqu'au dernier moment les consultations à huis clos. Ses adversaires auraient déjà fait miroiter à plusieurs élus des postes au gouvernement s'ils votaient la destitution de la présidente. Brasilia, Laurent Macchetti, Bertrand Galichet, France Inter.
Sébastien Velu, bonjour.
Bonjour.
Sébastien Velu, vous êtes géographe et professeur à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. À votre avis, est-ce que le scandale Petrobras va coûter sa place à Dilma Rousseff?
Écoutez, ça a l'air bien parti là, parce que d'après les dernières estimations préalables au vote qui aura lieu cet après-midi au Brésil, il y a une majorité de députés qui prêts à voter la procédure de destitution. D'après les sondages qui ont été faits par les journaux, 350 députés prêts à voter la destitution et seulement 133 contre, et il reste encore une trentaine de députés dont on ne sait pas ce qu'ils vont voter. Donc ça va être extrêmement serré.
Le baroud d'honneur lancé dans les médias et via des vidéos par Dilma Rousseff et ses proches n'aura donc servi à rien?
Je ne sais pas, en tout cas, si la Chambre vote aujourd'hui pour la destitution, Madame Rousseff ne sera pas immédiatement destituée.
Alors qu'est-ce qui va se passer, Sébastien Velu?
Eh bien, elle sera jugée par le Sénat dans un délai de 3 mois pendant lesquels elle devra s'éloigner de la présidence pour préparer sa défense.
C'est vrai, le problème, c'est que Dilma Rousseff n'est pas la seule impliquée ou éclaboussée par ce scandale. Si on prend toute la pyramide politique du Brésil, tous plus ou moins, de près ou de loin, sont mouillés ou impactés ou impliqués dans cette affaire.
Bien sûr, c'est une affaire considérable et elle révèle en fait une corruption endémique dans la classe politique brésilienne. Et il faut bien souligner que le vote de cet après-midi ne porte pas sur le scandale de Petrobras, mais sur la présentation du budget qui n'aurait pas été conforme avec la loi budgétaire. Donc il y a un détournement de procédure. Parce qu'on sait bien qu'en fait, la question, c'est le scandale Petrobras. Mais c'est pas là-dessus que Dilma devra s'expliquer.
Est-ce que tous les Brésiliens ne sont pas finalement écœurés par ce qui se passe dans la politique brésilienne actuellement ?
Oui, c'est un sentiment très partagé, effectivement, de cette incapacité de la classe politique brésilienne à se réformer. Et du coup, les défenseurs de Dilma ont beau jeu aussi de rappeler que les autres partis ne sont pas exempts de critiques.
Dilma Rousseff, quand on regarde la pyramide politique brésilienne, c'est peut-être celle qui est la moins touchée par les scandales.
D'une certaine façon, oui. Ce que l'on pense, c'est qu'elle n'est en tout cas pas responsable du scandale Petrobras. Hein. Mais c'est bien la discussion. Hein, puisque dans ce cas du scandale Petrobras, des pots de vin qui ont été versés par l'entreprise... Elle-même, elle était ministre de l'énergie à ce moment-là, donc savait-elle, ne savait-elle pas ? Pour l'instant, on n'a aucune preuve.
Avec cette affaire de vote, de procédure de destitution concernant Dilma Rousseff, est-ce que le pays est entré dans une phase de grande turbulence politique ?
Manifestement, oui. Et c'est particulièrement inquiétant. C'est inquiétant pour l'image que le Brésil donne, c'est-à-dire que si Dilma doit être destituée finalement par le Sénat, ça va coïncider à peu près avec l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio, qui devait être un peu le point d'orgue hein, de cette montée brésilienne. Et puis en Amérique latine, le Brésil de Lula, puis le Brésil de Dilma est quand même un leader important. Et si le Brésil est à la dérive, c'est l'Amérique latine tout entière qui va manquer aussi de repères.
Sébastien Velu, merci. Sébastien Velu, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, était l'invité du 13h de France Inter. Alain Vidalis, ministre des Transports, et une quinzaine de chefs d'entreprise sont du voyage. Le premier vol régulier d'Air France pour Téhéran a quitté Paris à 12h20. Il est attendu sur l'aéroport Khomeini à 17h40 heure de Paris, 4h20 de vol après 8 années d'interruption, 3 vols par semaine pour commencer. Mais la fréquence de vol n'en restera pas là car il y aura probablement de la demande à Kim Kasmi.
Au-delà du symbole, la reprise des vols d'Air France sur Téhéran représente un véritable enjeu économique. Avec la levée des sanctions, les hommes d'affaires et les touristes sont de retour, sans compter que la classe moyenne iranienne, avide de consommation et de voyage, représente la moitié de la population, soit 40 millions de personnes. Un relais de croissance bienvenu, d'autant que sur son réseau long courrier, la compagnie est impactée par la crise au Brésil et par la baisse des voyageurs japonais, qui sont de moins en moins nombreux à venir dans la capitale depuis les attentats de Paris. Mais Air France ne sera pas seul en Iran puisque ses principaux concurrents européens comme Lufthansa ou Alitalia ont déjà effectué leur retour dans la capitale iranienne. Quant à la polémique sur le port du voile qui est obligatoire pour les équipages féminins dès leur descente d'avion en Iran, ce qui avait suscité l'inquiétude d'une partie des hôtesses et des femmes pilotes, la direction d'Air France a finalement tranché. En accord avec les syndicats, elle leur laissera finalement le choix de se désister si elles sont affectées sur un vol sur Téhéran sans conséquence sur leur salaire ou leur planning.
Inter 13, Philippe Habitboul.
La colère des motards contre le contrôle technique obligatoire pour les deux roues au moment de la revente. Ils étaient plusieurs milliers hier en région à défiler et ils seront également nombreux cet après-midi à Paris. Le rassemblement partira de l'esplanade du château de Vincennes, esplanade où vous vous trouvez, Géraldine Allot.
Oui, ils sont déjà plusieurs dizaines rassemblés sous la pluie devant le château de Vincennes dans une ambiance très motard avec grosse barbe et blouson de cuir. Le mot d'ordre, c'est non au contrôle technique. On n'a pas besoin qu'on nous oblige à vérifier notre moto. On le fait très bien nous-mêmes, dit Jean-Michel.
C'est juste un impôt de plus. Quoi. C'est une motophobe pour essayer de pousser les gens à ne pas faire de moto, c'est tout. Ça se voit, on n'a pas de carrosserie, donc des pneus usés, des plaquettes usées, un problème sur la moto, ça se voit tout de suite, il n'y a pas besoin de... Voilà. Contrairement à une voiture.
Vous la faites vérifier tous les combien, votre moto ?
Moi, je la vérifie à chaque fois que je la prends.
Les amateurs de voitures anciennes sont aussi de la partie. Ils protestent contre les restrictions de circulation à compter du 1er juillet. Les motos antérieures à l'an 2000 et les voitures d'avant 1997 ne pourront plus sortir.
C'est quoi que vous avez comme voiture là ?
Alors, cette magnifique automobile est une Chrysler New Yorker de 1967, coupée Fast Temp.
Au-delà de la frime, Daniel dénonce une mesure discriminatoire.
Je fais surtout partie d'une couche de la population qu'on appelle les nouveaux pauvres, les gens défavorisés qui ont du mal à s'en sortir et qui n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures neuves à crédit sur 150 ans pour faire plaisir à Madame Hidalgo sous prétexte de dépollution. Et moi, je survis avec 700 euros par mois, donc voilà. Tout est dit.
Les organisateurs attendent 15 000 motards dans ce cortège parisien qui s'élancera à 15h, direction les Invalides.
Merci Géraldine Allot avec les moyens techniques de Laurent Gou. Mauvaises conditions météo, avalanche ce matin au pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées. Trois alpinistes ont été surpris par une coulée de neige. Deux n'ont pas survécu, un autre a été évacué. Ce troisième alpiniste est sain et sauf, Frédéric Bourgade.
Le drame s'est produit ce matin vers 8h30. Les trois alpinistes étaient partis à 4h du matin pour une ascension. Ils se trouvaient sur la façade nord-est du pic du Midi, dans le couloir de la poubelle, à environ 500 mètres du sommet, au moment du déclenchement de l'avalanche. Le temps était d'ailleurs particulièrement mauvais, avec des vents forts, du brouillard et un risque d'avalanche fort. Soudain, une masse de neige s'est détachée au flanc de la montagne, roulant vers la vallée. Les trois hommes, originaires du Tarn, ont été aussitôt ensevelis sous un lourd manteau de neige froide et épaisse. L'un des trois randonneurs a cependant réussi à s'extirper et à prévenir les secours. Deux équipes terrestres, des gendarmes du peloton de haute montagne de Gavarnie, se sont alors rendus sur place avec des chiens d'avalanche et des moyens pour sonder la neige. Ils ont découvert les deux victimes sans vie. Le seul survivant de l'avalanche est un homme fortement choqué. Il a été élitreillé vers l'hôpital de Tarbes, notamment pour des problèmes d'hypothermie. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Tennis, honneur aux dames, la Fed Cup à Trélazé dans le Maine-et-Loire. Françaises et néerlandaises sont à égalité, une victoire partout cet après-midi. Programme chargé avec les deux derniers simples et le double pour finir. En ouverture, c'est Mladenovic qui s'y colle. La numéro 1 française joue depuis quelques minutes contre Kiki Bertens, Jean-Pierre Blimeau.
Oui, et ça ne se passe pas très bien pour l'instant, puisque comme hier, Kiki Bertens a pris le service de la Française. Alors hier, c'était une autre Française, bien sûr, Caroline Garcia, mais Kristina Mladenovic, qui avait remis la France en selle hier, après la défaite de Caroline Garcia, eh bien, a entamé le match comme sa partenaire. Et finalement, là, Kiki Bertens, qui a déjà gratifié d'un ace le public de l'Arena Loire, ici, à Trélazé, près d'Angers, eh bien, va faire parler certainement son service, encore une fois aujourd'hui, face à Kristina Mladenovic, qui a eu un petit peu de mal à rentrer dans son match, mais qui vient, il y a quelques instants, de nous gratifier aussi d'un excellent retour sur une deuxième balle de service de la néerlandaise, qui sera peut-être attaquable à ce niveau-là. D'ailleurs, la Française Mladenovic l'a dit hier en conférence de presse, elle sait quoi faire tactiquement pour gêner cette Kiki Bertens, qui, selon elle, est très efficace et redoutable en Fed Cup. On l'a vu et on l'a bien compris ici, à Angers.
Merci Jean-Pierre Blimeau. Le temps de mettre des lunettes de soleil et on va à Monte Carlo pour la finale du Masters 1000. Sur le rocher, mon fils est au pied de la montagne. Le Français va devoir sortir le grand jeu pour tenter d'accrocher Nadal. L'Espagnol, 8 fois vainqueur sur la terre battue monégasque, a semble-t-il retrouvé toute son énergie. Mais Fabrice Abgral a-t-il retrouvé pour autant son meilleur niveau tennistique ?
Vous savez Philippe, il a tellement gagné sur terre battue qu'on en avait presque oublié que Rafael Nadal pouvait perdre sur cette surface. L'Espagnol reste évidemment un monument du tennis, mais l'édifice est un petit peu fissuré et Nadal s'applique en ce moment à le réparer, à colmater les petites brèches. Car Nadal, clairement, est moins souverain que par le passé et sa domination sur terre battue beaucoup moins éclatante. Nadal a longtemps été la référence ultime sur la surface, personne ne lui enlèvera évidemment ses 9 titres à Roland-Garros et ses 8 titres consécutifs à Monte-Carlo où il s'est imposé sans interruption entre 2005 et 2012. À l'époque, il était injouable, mais avec l'âge et avec le temps, Nadal a perdu de sa superbe. Il n'a plus remporté un grand titre sur terre battue depuis Roland-Garros en 2014. Clairement, Rafael Nadal n'est plus le joueur qu'il a été. Il est moins fringant, moins brillant, et à un mois et demi de Roland-Garros, Nadal est toujours en quête de confiance et de sensations pour retrouver son meilleur niveau. Il travaille alors sans relâche, alors tout n'est pas parfait, mais son tennis s'améliore doucement, progressivement, mais indiscutablement. Gaël Monfils ne veut pas entendre parler de tout ça. Pour lui, Nadal reste et restera toujours un joueur dangereux. Qui plus est, sur terre battue, le Français n'a jamais dominé l'Espagnol en 4 confrontations. Il ne lui a même jamais pris le moindre set. Et pire encore, face à lui, sur terre battue, Monfils n'a jamais marqué plus de 5 jeux. Bref, Monfils s'apprête à relever un immense défi. peut-être le plus grand de sa carrière.
Absolument, Fabrice. Mon fils Nadal, cela commencera à 14h25, 14h30. Le monde du hard rock est en ébullition. Les Australiens de la CDC changent de chanteur. Excite Brian Johnson, qui souffre d'un problème de surdité. C'est Axl Rose du groupe Guns N' Roses qui va prendre sa place. Premier concert le 7 mai à Lisbonne. Il faudra voir si la grève prend ou pas et si les groupes sanguins sont compatibles. À suivre la météo.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Fini la pluie, demain ce sera mieux mais plus frais, Jean-Michel Golinski.
Un temps humide cet après-midi du nord-est aux Alpes et sur la Provence avec des averses ponctuellement orageuses. Du sud-ouest au Massif central et sur le Berry, les ondées vont progressivement s'espacer. Autour de la Méditerranée, le ciel se dégage et du nord de la Loire à la Belgique, une ondée passagère pourra éventuellement s'intercaler dans un ciel moitié bleu, moitié gris. Les températures, pas très élevées dans l'ensemble, ne vont pas dépasser 10 à 13 degrés dans le nord-est, au nord de la Loire, sur le Poitou, les Charentes et le centre, 16 en Rhône-Alpes, 17 dans le sud-ouest. Ce sera plus doux près de la Méditerranée, vers 20 degrés à Perpignan, 21 à Nîmes et 22 sur Toulon et Ajaccio. Demain, le temps sera maussade, des Alpes au plateau de la Haute-Saône, avec de la neige à partir de 1000 mètres. Autour de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane à 70 km à l'heure vont maintenir un bleu parfait. Partout ailleurs, le ciel sera variablement ensoleillé. Les températures matinales seront proches de 0 moins 2 degrés du nord de la Loire à l'Alsace avec de fréquentes gelées blanches, mais l'après-midi, il fera sensiblement plus doux qu'aujourd'hui.